France Culture.
Toutes les scènes que vous allez voir dans ce film ont été prises sur le vif. Si parfois elles vous paraîtront amères, c'est que bien des choses le sont sur cette terre. Présenter la réalité des choses sans l'édulcorer est un devoir, mondo cane. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en Mondo Vision ce samedi grâce à un impressionnant coffret collector, 4 Blu-ray et un livre somme publié par Potemkin, surgi en 1962 lors de la projection choc au festival de Cannes de Mondo Cane des cinéastes italiens Prosperi, Giacopetti et Cavara. La Mondo Vision n'aura de cesse de gagner le monde, imposant au fil de plusieurs dizaines de productions sa mélancolie anthropologique, son hédonisme crade et son voyeurisme désespéré. Sous la graphie du Petit Matin ou Cassotto à fond les broyeurs, Poussin, Teint en jaune ou Scarification sacrée, Tamouret pour retraité ou Corrida sanglante, demandez le menu. Maxime Lachaud, un des hommes par qui ce coffret scandale arrive, et ce soir, notre invité. Le goût du pire est-il le pire du goût? Réponse maintenant dans votre chienne d'émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui ce soir ne fera pas mentir sa réputation et sera fidèle à sa vocation, puisque nous parlerons du Mondo, du cinéma Mondo, tel que, je le répète, un coffret absolument extraordinaire nous évoque dans produit par Potemkin. Il y a à la fois dans ce coffret un livre, Mondo Movies, Reflet dans un œil mort, très beau titre, de Sébastien Guéraud et Maxime Lachaud, que je salue. Bonsoir Maxime Lachaud.
Oui, merci de me recevoir, c'est un plaisir de revenir.
Bah oui, la dernière fois c'était il y a à peu près 50 ans, je ne sais plus trop, mais il y a assez longtemps c'était pour un livre qui s'appelait Redneck Movies. Vous venez toujours pour des sujets frais et porteurs d'espérance.
Oui, après dans les Redneck il y a des choses assez marrantes aussi.
Ah ben non, mais ça n'empêche, on peut s'amuser. Donc soyez le bienvenu donc, pour évoquer avec nous l'univers des Mondo Movies. Sixtine Audebert, bonsoir.
Bonsoir François.
Rien de neuf.
Rien de neuf, entre l'étude de Jacques Roubaud et les séances du Forum des images dédiées à la rétrospective sur le Cambodge. J'ai vu quelques Mondo Movies.
Voilà, très bien. Bah, c'est une excellente idée. Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Bonsoir, comment va-t-il?
Bah, très bien, on vient de sortir notre positif là, avec un dossier sur l'exploitation.
J'ai lu le commentaire qu'à l'époque Positif avait noté sur le Mondo Cane.
C'était formidable.
Il va falloir
Robert Benayoud.
Nous
la diffamation du réel.
Voilà, non, c'était beau.
Attends, on trouvera meilleur ce soir que la diffamation
classieux,
du réel.
Classieux.
Bravo, Robert.
Bravo, Robert. Fausto Fazulo.
Toutes les phrases dites ce soir l'auraient été en direct. Mondo en Geliero, c'est ça.
Très bien.
C'est ça. Bonsoir, François.
Et Stéphane Duménildo, comment
va-t-il? Bonsoir, François. Bah, très bien, très bien.
Alors, il sort au mois de juin. On en parle déjà parce qu'on annonce les choses. Il y a des roulements de tambour. Un livre qui s'appelle Soleil Rouge, une histoire du cinéma rebelle japonais par Stéphane Duménildo, donc chez Façonnage Édition. Rapidement, avant qu'on en reparle, qu'est-ce qu'on peut en dire en une seconde?
C'est un parcours du cinéma japonais à travers plusieurs figures rebelles. On trouvera des samouraïs nihilistes, des yakuza et des collégiennes avec des mitraillettes.
Ah bah voilà, donc on trouvera Stéphane Duménildo. C'est donc aux éditions Façonnage et on ouvre cette émission bien évidemment par la Mondo Vision telle que vue par Laurent Polleret.
Un conte de fées, ces termes ne pourraient-ils pas s'appliquer à cette prodigieuse aventure des temps modernes à laquelle les satellites de télécommunication nous ont fait participer? Telstar 1 réussit la première liaison de télévision entre l'ancien et le nouveau monde. C'est à Plummer Boudou que furent reçus pour la première fois en Europe les signaux d'essai provenant des États-Unis. Victoire sur l'espace, victoire sur la distance, nous voici loin des premiers essais de 1950. Depuis, de nombreux programmes de télévision furent échangés au-dessus de l'Atlantique et le satellite relais eut sa large part à leur succès. Bientôt, peut-être, sera-t-il possible de transmettre des images d'un point quelconque de notre globe. Il faudrait pour cela soit une chaîne ininterrompue de satellites semblables à Telstar ou à Relais, soit des satellites d'un type nouveau, qui à plus de 36 000 km de la Terre, et tournant à sa vitesse même, serait en quelque sorte à poste fixe, capable de faire franchir aux images en un seul bond toutes les frontières.
La Mondovision telle que vue par Laurent Polleret. Alors, je parlais d'un coffret somptueux qui fait époque. Philippe Rouillet, oui, analyse donc, produit.
Il
analyse
est sorti produit. Chez Potemkin à la fin de l'année dernière. Il est très grand au format carré et il s'ouvre comme une vraie boîte avec à l'intérieur le livre dont vous parliez tout à l'heure, François, de Sébastien Guéraud et Maxime Lachaud, qui est donc une édition remise à jour d'un livre dont on avait parlé naguère dans Mauvais Genre, effectivement, reflet dans un œil mort, impossible de trouver un titre aussi beau. Et donc, voilà, ça a été remis à jour en fonction des connaissances. Entre-temps, de toute façon, le livre était épuisé, donc c'est une bonne chose qu'on l'ait, et c'est vraiment une bible sur le sujet. Avec ça, on a quatre Blu-ray qui sont un peu... le credo du Mondo, quoi. C'est, si vous voulez débuter, en fait, l'intérêt de ce coffret, c'est que vous l'achetez et vous avez de quoi partir sur les pistes du Mondo, parce que vous avez Mondo Cane, donc 62, le film séminal. Vous avez Adieu Africa, qui est quand même une sorte de somme. Enfin, de tous ces films-là, on va parler tout à l'heure. Hein. On a La Cible dans l'œil, qui est une sorte de mise en abîme et de miroir réflexif. À regarder après Adieu Africa, et puis Killing of America, qui est une des voix du Mondo, qui est peut-être moins intéressante aujourd'hui, mais qui en 81 faisait sensation avec ses entretiens de tueurs en série, et puis la vision du film Zapruder, l'assassinat de Kennedy. Et puis, il y a des goodies, parce que c'est ça aussi, hein, les éditions collector limitées.
C'est ça aussi le Mondo, la fête.
Ben,
c'est
la partage. Fête, notamment un disque des musiques de Riz Ortolani, qui est quand même le grand compositeur des films de Jacopetti et Prosperi. Ces musiques, on en parlera tout à l'heure, extraordinairement mélancoliques, etc., qui donnent un côté poignant à ces horreurs totalement trash. Et donc, il y a possibilité de mettre le vinyle sur sa platine, et là ça devient quelque chose de très fou. Et alors, on a un autre objet Blu-ray,
voilà,
ce soir,
deuxième objet,
qui est parallèlement la sortie chez Le Chat qui fume des Négriers, qui est une sorte de réponse des intéressés, donc de Jacopetti et Prosperi, à leur propre film Adieu Africa, qu'on avait qualifié de raciste, vous pensez bien. Donc, ils voulaient montrer qu'ils n'en étaient pas.
Quelle idée.
On en reparlera tout à l'heure. Et donc, ils ont fait ce film Les Négriers, qui est présenté, lui, dans une triple version. Sa version italienne dite intégrale, qui est une reconstitution de la version initiale perdue. Le montage américain qui fait 10 minutes de moins, mais avec des scènes alternatives. Et le montage français qui ne fait qu'une heure et quart et qui est encore autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les trois versions. Il y a en plus un film sur un doc sur Jacopetti, et puis il y a une très longue analyse de Maxime Lachaud, ici présent, de 50 minutes, qui est là aussi une intro au Mondo. Et ce qui est extraordinaire avec tous ces films, tous ces Blu-ray, c'est que il y a une qualité de films absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on voit les films, ces films qu'on avait vus au mieux dans des VHS défaillante, là tout d'un coup, je veux dire, tout l'éclat du trash est là, le miroir de l'horreur, le reflet dans un œil mort, il brille de mille feux, hein. Et il est bien là, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel, avec les versions les plus complètes qu'on puisse imaginer. Et complète, quand je dis complète,
c'est plus que complète.
Voilà, c'est au-delà de l'abjection.
Alors, Mondo Vision, Mondo Cane, Maxime Lachaud, monté à la barre ou au filet, comme vous voulez. Et commencez par nous expliquer un peu. En 1962, au Festival de Cannes, les festivaliers professionnels du cinéma ou cinéphiles ou simples curieux, brusquement butent sur un film que l'on n'attendait pas, qui s'appelle Mondo Cane, de messieurs, je répète les noms, Prosperi, Jacopetti et Cavara. Et là, ce film révolutionne un petit peu, je ne dirais pas l'histoire du cinéma, mais en tout cas le confort intellectuel, la zone de confort, pour utiliser une expression à la mode aujourd'hui. On est expulsé un peu de sa zone de confort ce jour-là. De quoi s'agit-il, Maxime Lachaud ?
Alors, disons, bah, d'abord, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Ben, voilà, c'est une émission que j'écoute tout le temps. Donc c'est, c'est un bonheur. Et donc, oui, on peut dire que Mondo Canet, même si quelque part on va trouver des traces du Mondo dès les débuts du cinéma, hein, mais c'est vraiment le film matrice d'où tout part. Où en gros, le principe du film, c'est on va filmer des rituels ou des coutumes humaines ou animales aux quatre coins du monde. On va rassembler tout ça autour d'une voix off et de musique. Donc là, c'est Nino Oliveiro et Riz Ortolani. Donc, musique avec des thèmes, mais très, voilà, très symphoniques, très mélancoliques, enfin, qui sont déclinés selon les séquences et souvent avec des contrepoints. Aussi, la musique va apporter un autre niveau de réception des images. Et l'attitude des réalisateurs qui avaient un passé dans le journalisme, voire le journalisme scientifique.
La avec, science, il y en a qui étaient biologistes.
Voilà, Franco Prosperi. Et Jaco Petit, lui, il travaillait aux actualités filmées, notamment qu'on voyait dans les cinémas, il avait expérimenté un ton assez cynique, sarcastique, et il avait travaillé sur les films sexy aussi italiens, parce que le Mondo découle aussi de ces films-là, qui étaient des films où on allait filmer des numéros de cabaret, des feuillages aux quatre coins du monde. Et c'est lors du tournage, je crois que c'était sur Europa Dinoté, ils vont à Hambourg dans les clubs sexy. Et en même temps, là, Jaco Petit commence à filmer les gens dans la rue complètement ivres, des scènes qui sont restées dans Mondo Canet. Il dit, mais en fait, le spectacle, c'est ça. C'est cette vie-là. Et c'est ça que je veux filmer. Et en faisant ça, il révolutionne complètement le documentaire. Parce que selon lui, le documentaire, c'était des beaux couchers de soleil, des choses comme ça. Et ce qu'il veut montrer et mettre en contraste, c'est ce beau. Oui, on va avoir des couchers de soleil, mais le mettre en parallèle avec aussi la laideur du monde, avec un point de vue quand même assez misanthrope, on peut dire. Et donc, des images douces.
Alors, qu'est-ce qu'on voit, Maxime Lachaud, d'aussi, de choc, de canet?
Ben, on va, ça peut aller du gavage des oies à des scènes très très belles, de cargo culte, des scènes aussi de ferveur religieuse en Italie, avec des rituels assez durs, hein, de...
Oui, des gens qui se brossent, qui se frottent les cuisses avec des cercles de liège hérissés de tessons et qui ruissellent de sang. Ça, c'est les...
Ça vous a plu, François?
Oui, oui, non.
Ça, je sens le...
Là, on sent les religieux.
C'est un peu chez moi.
Mais en même temps, on va avoir aussi le milieu de la consommation. On est au début des années 60 et ils vont montrer aussi cette sorte de surconsommation un peu absurde. Ça va aller des cimetières pour chiens.
Au restaurant avec des chiens.
Voilà. Jusqu'à l'art contemporain. Et il va y avoir une scène avec Yves Klein qui, selon la rumeur, Yves Klein ne se serait jamais remis de la projection à Cannes.
Il serait mort.
Un mois après, c'est vrai qu'il n'était plus de ce monde.
Alors, ce qui est quand même marquant, Maxime Lachaud, c'est qu'on a un alliage. Il y a à la fois des images qui sont celles que vous venez de décrire. Alors ça passe de chez les Italiens, ils s'amusent à teindre des poussins et à les mettre au four, et après le poussin sort, il est mauve, vert pâle et tout ça.
C'est accompagné d'un thème de Riz Ortolani,
voilà,
particulièrement privilégié.
Avec un thème absolument au point
et qui a été nommé aux Oscars.
L'abattage violent pour un dîner orgiaque. De cochon sauvage, il y a une casse auto, il y a la sortie, la fermeture des bars au petit matin en Allemagne avec des scènes de soulographie absolument hallucinantes, pathétiques et fascinantes. Il y a des retraités américains qui dansent le tamouret. Mais quand même, Fausto Fasulo, ce qui est la force là, si on les prend un par un,
Ok, d'accord, ça porte.
Non, mais c'est l'alliage, c'est ce
mais c'est l'alliage surtout.
Oui, c'est l'alliage, c'est le jeu du contrepoint, c'est aussi la musique qui apporte quasiment une autre écriture. Au film.
La voix off aussi.
La voix off aussi, qui est justement qui est dans cette misanthropie échevelée. Et c'est une sorte d'objet qui. On n'a pas vraiment parlé aussi de la mise en scène, bon, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a un véritable soin apporté à la photo. Dès le début du film, on a ce travelling dans le chenil qui est particulièrement saisissant. On a des mouvements d'appareil qui parfois, effectivement, sont assez amples. On a ce jeu avec les courtes focales là, comme ça, qui viennent épouser les visages, des alternances entre des plans de foule et des plans très très serrés. Enfin, il y a une vraie réflexion vraiment autour de la mise en scène, des mouvements d'appareil, du montage, et puis cet alliage, ce montage qui fait de Mondo Cane un objet assez unique. Moi, j'avais une petite question pour Maxime, en fait. Alors, j'imagine que votre intérêt pour les films relève justement de leur caractère assez singulier dans l'histoire du cinéma, mais j'imagine que cet intérêt-là aussi, à cet intérêt s'ajoute les personnalités des personnes, justement, enfin des gens qui ont fait ces films, c'est que ce soit Iacopetti, Prosperi ou Cavara. C'est-à-dire que c'est le Mondo, en fait, ce qui est aussi passionnant dans le Mondo, c'est son arrière-cuisine. J'imagine que c'est aussi ça qui a motivé l'écriture et l'étude de ce genre.
Oui, Maxime Lachaud.
Oui, notamment. Et puis, c'est vrai que suite à la scène des chiens, il y a cette scène où il dévoile une statue. Et il y a une interview de Jacopetti où il dit que le monde est un théâtre. Mm. Et il veut filmer le réel comme si tout le monde était des figurants dans une pièce de Shakespeare. Et donc, c'est une approche du documentaire et du réel qui est vraiment très, très singulière. Et puis, cette idée aussi de passer, on peut dire, du coq à l'âne, il y a quelque chose aussi d'assez puissant. On n'a même pas le temps de réfléchir des fois. Des fois, ça devient presque onirique. On passe d'un cadre à l'autre, on sait même plus où on est. Mais en tout cas, par contre, l'expérience physique de voir ces films. Et nous, avec Sébastien Guéraud, on a eu la chance de les découvrir en salle, parce qu'il y avait une rétrospective à Toulouse, à la Cinémathèque. Et en fait, les Mondos, c'était un terme qu'on connaissait, on avait lu ça dans la revue Research, des choses comme ça, mais on ne les avait pas vus. Il y avait Boyd Rice qui en parlait, on se disait, mais qu'est-ce que c'est ces films?
Boyd Rice,
on les a découverts.
Voilà, compositeur de musique
expérimentale, qui était fasciné par les Mondos, qui a fait la préface aussi du livre. Et quand on les a vus, ben, c'était dans des bonnes conditions. Et comme disait Philippe, c'est vrai que c'est du cinéma. Et après, beaucoup les ont découverts avec la VHS. La VHS, ouais. Mais quand on a la chance de les voir en salle, c'est des expériences assez puissantes et assez métaphysiques, en fait.
Ah, tout à fait, justement.
Moi, je profite de rebondir sur la question de Fausto, parce que c'est vrai que j'ai été complètement fascinée par ce personnage de Iacopetti, cette espèce d'aventurier. Alors, bien sûr, il y a toute la partie sulfureuse, à sa réputation de playboy et son côté... De violeur.
Ah, une réputation de violeur, j'invente rien.
Oui. Bah, donc il aurait violé une jeune gitane de 16 ans. Il a dit que c'était un coup monté contre lui à l'époque. Et il a épousé cette jeune femme pour réparer l'erreur. Et ensuite, il a dû divorcer d'elle pour se mettre avec Belinda Lee, et qui était l'amour de sa vie, visiblement. Et qui est morte
durant le tournage.
Durant le tournage.
C'est décédé
pendant le tournage de Mondo Cane. Non, pas Mondo Cane, de celui sur les femmes. Aux Amériques, ouais.
Mais en fait, ils les ont fait tous un peu en même temps.
Ah oui.
En
ah
fait,
oui,
les,
vrai,
Mondo, les Mondo Cane 1, 2 et La femme à travers le monde, tout ça, c'est quelque part les mêmes banques d'images.
Mmh, ils étaient aux États-Unis à ce moment-là et elle est morte dans un accident de la route, hein, ouais. Je crois. Hein, c'est ça.
C'est ça, tout à fait. Donc il y a cet aspect-là de Iacopetti, mais c'est vrai que moi, j'ai surtout été fascinée par l'élan, l'énergie de l'aventurier, celui qui va, qui voyage, qui sillonne le monde et qui ramène des images souvent au péril de sa vie. Hein, et des images superbes. Hein, il faut vraiment insister sur la qualité des films dont il a déploré précisément précisément dès le Mondo Canet 2 que ça devienne un genre qui lui échappe, disons, par rapport à la vision qu'il en avait lui dès l'origine. Faut revenir sur ce titre qui est superbe, Mondo Canet.
Chienne de vie.
Chienne de vie, et donc pas Mondo comme le genre, l'espèce de tour du monde exotique que nous on entend. Il faudrait pas le réduire à ça chez Jacopetti. Il s'agit bien d'une œuvre quasi pamphlétaire avec quelque chose qui interroge réellement sur la dimension philosophique du rapport au cinéma et un commentaire, comme tu disais, Fausto.